Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, j'espère que vous avez retenu la leçon que nous a donnée la Très Sainte Vierge à Częstochowa. Lorsque les chrétiens sont dans une situation humainement désespérée, la Très Sainte Vierge intervient pour la sauver, sauver la foi, sauver l'Église, sauver la chrétienté. Mais tant que les hommes peuvent agir, le miracle ne consiste pas en ce que, en une intervention exceptionnelle de la Sainte Vierge, le miracle consiste à ce que la Sainte Vierge donne un courage exceptionnel, une foi exceptionnelle, une confiance exceptionnelle à tous les chrétiens, ou au moins à ceux qui veulent agir, afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir. Or, si l'Église est à terme dans une situation désespérée, nous avons malgré tout encore de nombreuses capacités d'agir, de nombreuses possibilités de promouvoir la foi, de défendre l'honneur de Jésus-Christ, de proclamer à la face du monde qu'il est le roi, maître et seigneur. Bref, actuellement, nous ne devons pas compter sur une intervention exceptionnelle de la Très Sainte Vierge, mais nous devons la supplier de nous donner des vertus exceptionnelles, une foi exceptionnelle, une confiance exceptionnelle, un courage hors du commun. Soyez certains que dans ce cas, elle vous exaucera. Au contraire, si vous lui demandez une intervention miraculeuse pour vous dispenser d'agir, elle vous répondra « Ce n'est pas encore le temps, l'heure de mon Fils n'est pas venue. Commence par aller jusqu'au bout de la grâce que je t'ai donnée. » Simple rappel pour que vous n'oubliez pas cette leçon très importante. Nous reprenons le commentaire de la Genèse et des six jours de la création. Nous en sommes au quatrième jour, lors duquel Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Il faut croire qu'il s'agit là de quelque chose de très important, puisqu'il y réserve toute une journée. Et effectivement, le soleil, la lune et les étoiles ont une importance particulière, surtout une signification spirituelle, bien entendu. Je vous ai déjà fait un commentaire sur la lumière et sur les ténèbres, je n'y reviendrai pas. Je pense que le meilleur commentaire de ce quatrième jour de la création, c'est le prologue de l'évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et malheureusement, les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, c'était Jean-Baptiste, qui vint en témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière, saint Jean, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans ce monde. Il était dans ce monde, et le monde par lui a été fait, et cependant le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et cependant les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. La signification profonde de ce quatrième jour de la création est évidente. Le soleil, c'est Dieu. La lune, c'est ceux qui sont éclairés par Dieu. Mais comme le péché originel est venu plonger le monde dans les ténèbres. Dieu a voulu restaurer son œuvre d'une façon plus admirable qu'il ne l'avait instaurée la première fois, et désormais, la lumière s'est faite chair pour que tout le monde puisse la voir et la reconnaître. Mais faites bien attention, mes bien chers frères, elle s'est faite chair, mais elle demeure lumière. Monseigneur Lefebvre nous disait, faites attention de ne pas, en prêchant sur Jésus-Christ, ne pas donner plus d'importance à l'humanité qu'à sa divinité. C'est la divinité du Christ que vous devez prêcher, nous disait-il. Eh bien, la lumière s'est faite chair, cela la rend plus visible à tous les hommes de bonne volonté, ceux qui sont nés de Dieu, mais les hommes de mauvaise volonté, eux, en profitent pour ne voir que l'extérieur, pour traiter Jésus-Christ comme un grand prophète peut-être, comme un homme exceptionnel, comme le premier des révolutionnaires, que sais-je encore, tout ce qu'a inventé la malice des hommes pour réduire Jésus-Christ à presque rien lorsqu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser. En tout cas, pour refuser de voir la lumière et de profiter de la lumière qu'il apportait. Jésus-Christ, c'est la lumière. La lune, donc c'est le soleil. La lune, c'est l'Église, car elle reçoit toute sa lumière du Christ. Elle ne brille pas par elle-même. La lune n'a aucune clarté en elle-même. Toute sa clarté est reçue du soleil et restituée à la terre pour guider la terre dans les ténèbres. On ferait beaucoup moins d'erreurs sur la nature de l'Église si l'on se rappelait cette vérité fondamentale. Certes, nous avons eu des grands papes et des grands évêques qui étaient les serviteurs de la lumière, c'est-à-dire du soleil. Mais si nous réfléchissions un peu, nous verrions qu'un pape qui ne réfléchit pas le soleil, mais qui réfléchit, c'est-à-dire qui donne à la terre la fausse lumière du monde, n'est pas le serviteur de Jésus-Christ. Depuis le Concile Vatican II, ce n'est plus la lumière de Jésus-Christ qui tombe depuis la chaire de Saint-Pierre ou depuis les chaires épiscopales, c'est la fausse lumière du monde. Il a suffi au cardinal Parolin d'organiser l'élection de Léon XIV et de faire que Léon XIV célèbre sa première messe de souverain pontife en latin. Qu'il apparaisse au balcon de Saint-Pierre avec les ornements traditionnels de la papauté, pour que des milliers de gens, des dizaines de milliers, peut-être même des millions, qui avaient réagi contre les horreurs de François Bergoglio, se persuadent qu'ils ont désormais un pape qui va reprendre la défense de la tradition de l'Église. Non. La révolution qui courait au grand jour va désormais avancer comme dans un tunnel. Elle sera couverte par la bonhomie de Léon XIV, mais au bout du tunnel, elle ressortira au grand jour et elle aura fait des dégâts d'autant plus grands qu'on aura été inattentif. Oui, le soleil s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair. Ce faisant, il a permis aux humbles de trouver la lumière, mais à ceux qui ne veulent pas chercher la lumière, qui veulent rester aux apparences, qui veulent vivre dans le confort, le faux confort du monde, ceux-là ne verront pas la lumière, car ils se sont rendus aveugles. C'est le commentaire d'Origène sur l'œuvre du quatrième jour. Cette lumière du Christ doit pénétrer jusque dans nos intelligences, dans nos cœurs, par la foi. Elle doit éclairer notre route, la foi éclaire la route. Saint Thomas le dit expressément, et Mgr Lefebvre reprend cette vérité après lui. Il faut avoir l'esprit de foi, c'est-à-dire une foi qui éclaire la route. Cette lumière du Christ du soleil doit être au plus intime de nous-mêmes. Elle réfléchit en nous par la lune. Car nous ne pouvons pas voir le soleil directement, nous ne pouvons pas le regarder directement. Nous pouvons profiter de la lumière du soleil lorsqu'elle est réfléchie. Mais alors, elle entre vraiment dans nos âmes, dans nos intelligences, dans nos cœurs. Et à notre tour, nous devenons lumineux. Il faut croire, mes bien chers frères, à cette action du Verbe de Dieu qui est le soleil, à cette action de l'Église qui depuis 2000 ans nous enseigne la vérité et ne pas nous laisser ébranler par une simple éclipse. Car le soleil de la foi qui brille en nous, lui, n'est pas éclipsé. Le Christ a dit à ses apôtres, « Vous êtes la lumière du monde. » Et à travers les apôtres, il le dit à tous les chrétiens, c'est-à-dire à tous ceux qui reçoivent la lumière de Jésus-Christ, qui se laissent éclairer par la foi. « Courage, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas un Léon XIV, un Bergoglio, un Paul VI, et qui vont suffire pour cacher la lumière. Ils peuvent bien faire tous les efforts qu'ils veulent. Ils n'aveugleront que ceux qui veulent bien devenir aveugles. Ils rendront sourds ceux qui veulent devenir sourds. Mais c'est l'importance du magistère ordinaire, mes bien chers frères, l'importance de la tradition de l'Église. Elle a 2000 ans, ce n'est pas quelques papes récents qui vont l'étouffer. Quant aux étoiles, mes bien chers frères, Origène en donne une liste. Moïse est une étoile en nous. Il nous illumine par ses actes. Abraham, Isaac, Jacob, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, David, Daniel, tous ceux dont l'Écriture a témoigné qu'ils ont été agréables à Dieu. Et Origène écrivait au premier siècle de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église. Il ne pouvait donc pas encore citer tous les saints du Nouveau Testament. Nos étoiles, désormais, ce sont... Quelles étoiles vais-je vous nommer en premier ? Je pense qu'aujourd'hui, il est important de vous nommer les martyrs. Les martyrs sont de véritables étoiles. Ils ont été légions au premier siècle de l'Église. Mais ils sont encore légions dans les derniers siècles de l'Église. Vous avez tous les martyrs missionnaires. Vous avez les martyrs de la charité, qui sont vraiment martyrs car ils ont donné leur vie. Ils sont morts. Vous avez les martyrs de la chrétienté, les La Roche-Jacquelin, les Catelino, les Cadoudal. Les étoiles les plus proches de nous, ce sont Mgr Lefebvre, Mgr Williamson. Certes, sur la terre, dans la nuit, lorsqu'on cherche son chemin, la lune est plus précieuse que les étoiles. Parce que le chemin existe, il n'y a qu'à le reconnaître à la lumière de la lune. Cependant, sur la mer, dans la nuit, ce n'est pas la lune qui guide le marin, ce sont les étoiles. L'étoile polaire, bien sûr, mais aussi toutes les étoiles, toutes les autres, car elles ont une place fixe dans le ciel, et il suffit de connaître l'heure, le jour de l'année, pour savoir que les étoiles seront toujours à la même place. Et cela suffit au marin pour continuer sa route. Mais bien, chers frères, il n'y a plus de chemins ordinaires. Vous êtes en pleine mer. Ayez le courage de l'accepter. Évidemment, cela fait peur d'être en pleine mer. Mais sachez que plus le bateau est petit, moins il court de danger. Parce qu'il flotte sur la vague. Ce sont les gros bateaux qui sont renversés par les vagues ou qui se brisent en deux, entre deux sommets de vagues. Ce sont les grands bateaux avec les grandes voiles qui offrent une grande prise au vent qui sont en danger. Alors acceptez que le bon Dieu, la Providence, nous ait mis sur une grande mer qui nous fait peur et acceptons de nous guider sur les étoiles. Et mes bien chers frères, Soyez à votre tour des étoiles. Vous n'êtes pas le soleil, vous n'êtes pas la lune, mais vous êtes des étoiles. Nous avons rencontré un père en Pologne, un prêtre. Il a osé tourner le dos publiquement au modernisme. Il est une étoile pour de nombreux prêtres dans le diocèse. Et vous, mes bien chers frères, saisissez toutes les occasions d'être des étoiles. La médaille miraculeuse fait beaucoup de bien. Une étoile est lumineuse. Il faut que vous soyez lumineux par la foi, mais aussi par la charité, par la bonté, par la miséricorde. Ne croyez pas que je vous demande à tous, ou que la Providence vous demande à tous, d'être des grands saints qui ont tant illuminé l'Église. Vous ne serez pas tous des Mgr Lefebvre, ni des Mgr Williamson, ni des Cadoudal, ni des Catelineau. Car l'Écriture sainte nous dit que les étoiles diffèrent les unes des autres en clarté, et chacun a ses dons propres. Ce que la Providence vous demande, c'est de mettre en œuvre vos dons, d'être l'étoile que vous devez être. L'un sera plus doué pour expliquer le catéchisme, l'autre sera plus doué dans les œuvres de miséricorde. Le troisième sera un exemple, le quatrième entraînera à la prière, etc. Encouragez votre prochain à réciter ne serait-ce qu'une dizaine du chapelet. Lorsque vous en aurez cinq, vous répartirez entre eux les cinq dizaines et ils diront un chapelet entier à eux cinq. Vous n'avez pas cinq voisins à inviter à dire le chapelet, eh bien demandez à la Très Sainte Vierge de vous les envoyer. Vous me direz que dans ce sermon, c'est la première fois que je parle de la Très Sainte Vierge. C'est que le bon Dieu a voulu dans sa providence que Jésus-Christ, le vrai soleil, l'unique soleil de justice, soit pleinement mis en valeur dans les premiers temps de l'Église, et il réservait sa mère surtout pour les derniers temps. Or, ces derniers temps, nous y sommes, et la Sainte Vierge est tout proche du soleil. Elle a la lune sous ses pieds, elle est couronnée d'étoiles, elle rouvre les yeux des aveugles, elle rouvre les oreilles des sourds, elle nous envoie surtout, elle nous envoie, c'est son message de Fatima, pour nous aussi ouvrir les yeux des aveugles, nous aussi ouvrir les oreilles des sourds. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, ou non, plutôt, Dieu vous bénit toujours. Alors je vous souhaite d'être attentif aux bénédictions de Dieu et de briller comme des étoiles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.